effectivement à des gens que Paul n'avait jamais rencontrés et qu'il n'avait jamais eu l'occasion, en quelque sorte, d'instruire. En effet, l'église de Colosse n'avait pas été fondée par l'apôtre Paul, mais par Épaphras, qui est l'un des compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul. Donc, informé par Épaphras du trouble que jetaient dans les esprits des chrétiens des gens qui enseignaient des erreurs, l'apôtre Paul rédige cette lettre pour rappeler ce qu'on appelle les fondements de la bonne nouvelle. Dans deux passages, chapitre 1, versets 12 à 23, et chapitre 2, versets 6 à 19, dans deux passages, Paul dépeint la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. De sorte que les chapitres 1 et 2 correspondent à des objectifs prioritaires d'une formation en vue de la ressemblance au Christ. La ressemblance au Christ. Parce que le disciple est celui qui est appelé à étudier auprès du maître pour finir par ressembler au maître. Souvenons-nous que le principe directeur de l'appel de Jésus, viens et suis-moi, le principe directeur de l'appel de Jésus, c'est que dès que nous aurions décidé d'entendre et d'appliquer, d'écouter et d'appliquer, nous ferons absolument tout ce qu'il faut pour mener à bien la décision. Et c'est exactement ce que nous voyons quand nous regardons l'histoire des disciples de Jésus. Entendre et appliquer. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous donne d'entendre et d'appliquer ce qu'il nous dit à travers sa parole. L'apôtre Paul avait donc ce désir de proclamer toute la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons cette illustration. Imaginez que vous veniez d'entrer dans l'âge adulte en étant tellement endetté qu'il vous sera impossible de faire face à toutes vos obligations financières de votre vivant. Essayez de vous représenter que jusqu'à la fin de vos jours, vous allez devoir faire face à des charges supérieures à vos revenus. Vous n'avez aucun moyen de vous en sortir. Vous ne pouvez qu'espérer survivre chaque fois un mois de plus. Et puis, un jour, vous recevez une enveloppe officielle qui vous est adressée par un grand cabinet de notaires. À l'intérieur, un courrier vous annonce le décès d'un parent éloigné. Le notaire vous informe aussi que, conformément au testament laissé par le défunt, toutes vos dettes, mais alors toutes vos dettes ont été remboursées intégralement. Vous ne devez plus rien à personne. Même votre prêt immobilier a été totalement remboursé. Pouvez-vous imaginer l'état d'euphorie dans lequel vous seriez? Vous en parleriez sans doute pendant des semaines, à qui veut l'entendre? Et puis, au bout d'un moment, bien qu'encore reconnaissant, vous cesseriez quand même de passer votre temps à parler de cet heureux événement. Au cours des 20 ou 30 années qui suivent, alors vous vous débrouillez, on va dire comme ça, à peu près bien financièrement. Vous ne connaissez plus la pauvreté ni l'endettement, mais en même temps, vous ne viviez pas non plus dans, on va dire ça comme ça, entre guillemets, le grand luxe, mais vous ne vivez pas non plus comme vous voulez. Votre situation financière vous permet juste d'avoir un niveau de vie moyen, ni plus, ni moins. Un jour, vous recevez un coup de téléphone d'un homme qui se présente comme le conseiller en placement d'une certaine banque. J'aurais souhaité m'entretenir avec vous de la gestion de votre compte, vous annonce-t-il. Mais je n'ai pas de compte dans votre banque, lui répondez-vous poliment. Citons alors vos noms et prénoms, il vous demande, êtes-vous bien cette personne? Oui, c'est bien ça. Lui répondez-vous, mais je n'ai pas de compte dans votre banque, je n'ai pas de compte chez vous. Perplexe, il vous demande de confirmer l'adresse qui figure dans le dossier. Vous reconnaissez là l'adresse de votre parent éloigné qui est mort 30 ans plus tôt. C'est l'adresse à laquelle nous avons envoyé vos relevés de compte pendant toutes ces années, explique-t-il. Au cours de la conversation donc, qui s'ensuit, vous découvrez que l'exécuteur testamentaire qui s'est occupé de la succession de votre riche parent avait ouvert un compte à votre nom 30 ans plus tôt. Combien d'argent y a-t-il sur le compte? Demandez-vous alors curieux. Tenez-vous bien, avertit le banquier, le compte a atteint plusieurs milliers d'euros. Apparemment, le notaire qui vous a informé du remboursement de vos dettes a oublié de mentionner que votre parent avait aussi laissé un héritage. Votre parent vous avait aussi laissé un héritage très généreux. Alors, que ressentiriez-vous en apprenant une telle nouvelle? Pendant 30 ans, vous avez eu un mode de vie très limité, alors que durant tout ce temps, vous aviez à la banque des moyens pour vivre correctement. Vous vous demanderiez sans doute, mais pourquoi ce notaire ne m'a-t-il pas raconté toute l'histoire? Pourquoi a-t-il oublié de me parler de la fortune dont j'avais hérité? Frères et sœurs dans le Seigneur, il arrive qu'au bout de plusieurs années de vie chrétienne, évidemment, certains chrétiens n'ont pas encore entendu ou compris l'histoire du salut dans toute son intégralité. Ils ont appris que la dette de leur péché a été remboursée, mais tout en ignorant le formidable héritage dont ils étaient bénéficiaires au travers de la mort de Jésus sur la croix. En effet, la bonne nouvelle du Nouveau Testament va au-delà de ce que réalisent beaucoup de chrétiens. Cette bonne nouvelle ne s'arrête pas seulement en ce qui concerne le fait de proclamer le pardon offert grâce au sacrifice de Jésus-Christ. S'arrêter uniquement au pardon, ce n'est pas proclamer l'Évangile dans son intégralité. En effet, nous avons souvent incité les gens à croire que le fait de recevoir le pardon était le sommet, en quelque sorte, de la vie chrétienne. Or, même si c'est absolument indispensable que Dieu nous accorde son pardon, mais cela n'est pas l'acte le plus élevé. Que Dieu nous accorde son pardon, cela n'est pas l'acte le plus élevé qu'il accomplit en nous sauvant. Jésus, frères et sœurs, n'est pas venu sur la terre et n'est pas mort uniquement pour que nous puissions être pardonnés et aller au ciel. Si le salut ne se limite qu'à cela, mais pourquoi nous laisse-t-il finalement ici sur terre une fois que nous sommes sauvés, une fois que nous sommes pardonnés? Pourquoi, aussi nécessaire et merveilleux qu'il puisse être, le pardon, frères et sœurs, n'est pas le sommet du salut. Dieu nous a pardonné dans un but. Dieu nous a pardonné dans un but, c'est pour pouvoir mettre en nous sa vie. C'est pour pouvoir mettre en nous sa vie de sorte qu'il puisse manifester sa vie dans ce monde, mais à travers nous. Parce que Dieu ne peut pas placer son Esprit Saint en quelqu'un qui n'est pas saint comme lui, c'est-à-dire mis à part, quelqu'un qui n'a pas été pardonné. C'est la raison pour laquelle le pardon est indispensable. Mais une fois que nous avons reçu le pardon, il nous donne sa vie. Jésus a déclaré dans Jean chapitre 10, verset 10, « Je suis venu justement afin que mes brebis aient la vie, mais la vie en abondance. » Et cette vie est appelée aussi dans Jean 3, 16, un verset que nous connaissons, la vie éternelle. Être sauvé, c'est recevoir la vie qui vient de Dieu. si nous en restons au pardon, nous ne proclamons pas tout l'évangile. Or, dans son intégralité, ce message déclare que Dieu veut élire domicile chez ceux qui placent leur confiance en lui. Il souhaite s'installer chez eux et occuper la place, mais vraiment toute la place. Être sauvé, c'est bien plus qu'être pardonné et aller au ciel. Cette conception intriquée, en quelque sorte, de la conversion a produit et continue peut-être de produire une multitude de chrétiens, je ne sais pas quel mot utiliser, mais un peu froid, une multitude de chrétiens froids, peut-être morose. Donc la plus grande ambition est juste, en tout cas, d'attendre le moment venu pour aller au ciel. Le tableau n'est pas toujours aussi glorieux. Beaucoup vivent plutôt comme s'ils ne faisaient que tuer le temps en attendant d'aller au ciel. On a oublié de leur dire tout ce que Jésus leur avait laissé dans son testament. Voilà pourquoi l'apôtre Paul donc brûlait du désir, d'envie d'annoncer tout l'évangile. Tout l'évangile. Il dit qu'il voulait annoncer pleinement le message que Dieu lui avait donné. Il voulait proclamer la parole de Dieu dans son intégralité, ne rien passer sous silence de ce qui devait être déclaré. Son but était que ceux qui se convertissent soient présentés à Dieu parfait en Christ. Que ceux qui se convertissent soient présentés à Dieu parfait en Christ, dans la ressemblance de Christ. De sorte qu'en te voyant, en me voyant, qu'ils voient Christ en moi et qu'ils ne me voient plus moi, mais qu'ils voient Christ en moi. Quel est donc ce mystère auquel Paul fait allusion dans ce passage? D'après le texte original grec et le contexte, il est clair que Paul ne faisait pas référence à une énigme, en tout cas dans le sens, je dirais, d'une enquête policière, par exemple. Le mot qu'il utilise désigne, le mot mystère qu'il utilise désigne quelque chose qui était inconnu auparavant, mais qui a été désormais dévoilé et manifesté clairement. Le mystère de la grâce, c'est Christ en vous, mais devenu une réalité. Christ en vous, devenu réalité. À l'époque de l'Ancien Testament, souvenons-nous, il arrivait que les gens soient revêtus de Dieu, mais uniquement pour accomplir une mission particulière. L'Éternel n'habitait pas en eux. Aujourd'hui, en la personne de son Esprit, Dieu vient habiter. Dieu fait de nous une habitation. Dieu vient habiter chez ceux qui le connaissent. Il devient véritablement notre vie en faisant mourir celui ou celle que nous étions avant notre conversion, en plaçant sa nature divine en nous, nous dit sa parole. Le salut, frères et sœurs, n'a pas produit tous ses fruits tant que le chrétien n'a pas compris le mystère de son union avec le Christ. L'évangélisation, justement partielle, produit des chrétiens pardonnés et qui sont dans l'attente d'aller au ciel. Mais quand la grâce arrive, quand la grâce s'empare d'un jeune, d'un nouveau converti, celui-ci comprend qu'il reçoit, qu'il doit recevoir chaque jour son énergie de la vie qui vient d'en haut, qui vient du ciel, qui vient de Dieu. Même le chrétien légaliste annonce le message de la mort de Jésus. En revanche, la grâce va jusqu'au bout de l'histoire en offrant une puissance dynamique qui permet de vivre par la vie de Christ. Bien aimé, le chrétien aura beau savoir que sa dette, la dette de son péché a été remboursée, mais tant qu'il n'aura pas compris que Christ n'est pas simplement dans sa vie, mais que Christ est véritablement sa vie, il ne fera jamais pleinement l'expérience de la puissance surnaturelle que procure la vie qui vient de Dieu. En effet, le corps du chrétien est en réalité un vase contenant la vie divine. un vase contenant la vie divine, dans la mesure où nous demeurons en lui, cette vie s'écoule alors en permanence à travers nous. Assurément, le sens de cette formule de Paul, Christ en vous, dit-il aux Colossiens, l'espérance de la gloire, assurément, le sens de cette formule signifie non seulement que le chrétien est totalement pardonné, mais aussi que Jésus manifesterait sa vie à travers le chrétien dans la mesure où ce dernier s'en remettrait entièrement à lui. Christ en moi. Christ en moi, a dit un auteur. Christ en moi, c'est un peu comme la mine d'un porte-mine. Pour pouvoir remplir la fonction à laquelle elle est destinée, il faut d'abord que la mine sorte du porte-mine. C'est exactement cela. Le chrétien est destiné à la fois à contenir et à laisser s'écouler la vie qui vient de Dieu, de manière à toucher le monde en y répondant avec son amour. Avoir compris l'évangile dans son intégralité, bien aimé, c'est savoir quelle glorieuse, dit l'apôtre Paul, richesse on a hérité en recevant la vie de Jésus-Christ, conformément à la prière que Paul adresse aussi en faveur des chrétiens d'Éphèse, que le Père de gloire illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et qu'elle est envers nous qui croyons justement l'infinie grandeur de sa puissance. Avoir compris l'évangile dans son intégralité, c'est savoir quelle richesse on a hérité en recevant la vie de Jésus-Christ. On entend parfois dire, quand on a Jésus, on a tout ce dont on a besoin. Quand on a Jésus, on a tout ce dont on a besoin. Dans une certaine mesure, oui, c'est juste. Mais quel est concrètement l'intérêt d'avoir tout ce dont on a besoin si on ne sait même pas de quoi s'agit-il? Quel est l'intérêt? Or, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas quelle est la richesse de leur héritage en Christ. Nous savons déjà que Jésus-Christ est mort à la croix. Nous avons compris que grâce au prix qu'il a payé une fois pour toutes, la dette de notre péché est remboursée intégralement. Dieu a déversé sur Jésus toute la colère suscitée par notre péché. En vertu du sang de Jésus versé à la croix, nos péchés ont été définitivement effacés. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Jésus a laissé un testament précisant les richesses qu'il nous a léguées afin que nous puissions en profiter, en bénéficier. Cet héritage est le nôtre. Cet héritage, pardon, qui est le nôtre, est décrit dans le Nouveau Testament. Donc, cette nouvelle peut paraître trop belle pour être vraie, mais vous pouvez la croire, car ces promesses ont été faites par Dieu le Fils, attestées par Dieu le Père, et justement, elles seront mises en œuvre, mises en exécution par Dieu le Saint-Esprit. Alors, pour terminer, voyons rapidement quelques privilèges que nous avons hérités de Jésus-Christ. Une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Vous est-il arrivé d'aimer, de souhaiter pouvoir être quelqu'un d'autre? Eh bien, c'est précisément ce que vous êtes, ce qui vous est arrivé. Vous n'êtes plus celui ou celle que vous étiez avant votre conversion. Dieu a fait de vous une toute nouvelle créature, selon 2 Corinthiens 15, verset 17. Un être nouveau, créé, parfaitement juste, selon Éphésiens chapitre 4, verset 24, désormais, vous êtes saints, non pas que vous ayez fait quoi que ce soit pour le mériter, mais parce que la justice vous a été offerte comme un don, nous dit Romains 5, 17. Vous avez toujours le même corps, mais c'est un être nouveau qui vit à l'intérieur de vous. À présent, Christ est votre vie. Et c'est en lui que vous avez la vie, le mouvement et l'être, dit l'apôtre Paul. Ne commettez pas l'erreur de croire que cela n'est pas vrai sous prétexte que votre comportement semble indiquer le contraire. Il se trouve en effet que votre cerveau se souvient du vieil homme que vous étiez avant votre conversion. Mais si vous avez cru jusqu'ici être encore ce vieil homme, il est tout à fait possible que vous ayez agi comme lui. Mais vous n'êtes plus cette personne. Maintenant que vous savez, pardon, qui vous êtes, en tout cas, vous allez trouver la force d'avoir un comportement qui soit en accord avec votre véritable, votre nouvelle identité. Il s'agit à présent de laisser la vérité renouveler votre intelligence afin que votre manière de vivre soit transformée. Ensuite, un autre privilège, un pouvoir nouveau, pardon, sur le péché. Avant que Jésus meure en vous laissant cette fortune spirituelle, vous étiez impuissant face au péché. Vous péchiez, mais parce que vous n'aviez pas de choix. C'est conforme, en quelque sorte, à votre nature que d'agir ainsi. À présent, les choses ont changé. Vous avez une nouvelle nature, celle de Jésus, une nature divine. Puisque sa vie est en vous, il va vous permettre d'avoir la victoire sur le péché dans la mesure où vous vous en remettez à lui. Rappelez-vous que celui ou celle que vous étiez jadis et qui affectionnait le péché est mort, selon Romains 6. Vous avez été placé sur la croix en Jésus-Christ, de sorte que vous avez été crucifié avec lui. Non seulement il est mort, mais vous êtes mort également, de sorte qu'à présent, ce n'est plus vous qui vivez, dit Galates 2:20, mais c'est Christ qui vit en vous, car celui qui est mort, en réalité, est libre de péché. Et comme si vous poussez un cadavre à pécher, il ne pourra pas pécher parce qu'il est mort. Et nous sommes morts au péché. Celui qui est mort est libre du péché. Pour avoir la victoire sur le péché, il vous suffit de vous en remettre à chaque instant au sacrifice pleinement suffisant de Jésus-Christ et d'affirmer en permanence que vous êtes mort au péché. Quand le péché s'approche, dites-lui, je suis mort au péché. Que cela corresponde ou non à ce que vous ressentez, mais regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Christ. Agissez conformément à cette parole. Et c'est effectivement, car c'est effectivement la réalité, la vérité. En vous en remettant à Jésus et en agissant par la foi, vous constaterez par vous-même que vous êtes bel et bien mort au péché. La Bible, frères et sœurs, enseigne clairement qu'une partie de notre héritage est que nous sommes morts au péché. Vous pouvez pécher, car c'était votre choix. Mais une fois que vous aurez compris quelle est votre nouvelle identité en Christ, vous constaterez que vous n'avez plus envie de vivre dans le péché. Vous êtes mort à tout cela. Désormais, vous êtes vivant pour Dieu. C'est lui qui motive à présent vos désirs et ce qui vous intéresse. Vous avez enfin le pouvoir sur le péché. Après une vie nouvelle, ensuite un pouvoir nouveau sur le péché, enfin un dernier privilège de notre héritage qui est une liberté nouvelle. Vous savez déjà que votre dette avait été payée par Jésus, mais si toutefois vous n'avez pas réellement pris conscience de votre identité en Christ, vous n'avez sans doute guère connu la liberté. Le chrétien qui croit à tort, n'être rien de plus qu'un pécheur pardonné ou un pécheur sauvé par la grâce a tendance à s'enfermer encore à nouveau dans les règles. Il est persuadé que les règles produisent en lui une vie spirituelle de meilleure qualité. Mais en réalité, comme le dit Romains chapitre 7 au verset 10, les règles religieuses s'avèrent toujours conduire à la mort. Un pécheur sauvé par la grâce. Quelle piètre manière de se présenter pour quelqu'un qui ne possède rien moins que la vie de Jésus-Christ. Dieu lui préfère plutôt vous appeler un saint. Dieu préfère nous appeler un saint. C'est le terme qu'il emploie à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. En tout cas, pourquoi le chrétien devrait-il se définir par le terme de pécheur, alors que Jésus est venu pour le sauver de son péché? Alors certes, Dieu voit des saints, justement, qui commettent encore des péchés, parce qu'ils sont encore sur cette terre, mais il ne nous considère plus comme des pécheurs sauvés, mais comme des mis à part. Je disais tout à l'heure, il nous voit à travers Christ. Mais Christ n'a jamais connu de péché. Christ n'a jamais péché. Celui qui demeure en Christ a la liberté, dit l'apôtre Paul, de faire ce qu'il veut. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce genre d'affirmation fait une peur bleue aux légalistes. Quoi? C'est vrai que je suis libre de faire ce que je veux, mais c'est parfait. Non, demeurez en Christ et faites tout ce qui vous plaît. Dans la mesure où vous avez une relation intime avec Jésus, vous n'avez plus à vous embarrasser des règles religieuses. Le légaliste craint que, faute de construire sa vie autour des règles, il se trouve soudain brûlant du plaisir de vivre justement dans le péché. Il a surtout besoin de comprendre ce qui implique le fait que le Saint-Esprit vit en nous. De sorte que lorsqu'il marche par la foi, selon l'Esprit, que ce soit la volonté de Dieu qui se manifeste et non pas la volonté de l'homme. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le chrétien qui est habité par le Saint-Esprit n'a aucune envie de vivre continuellement dans le péché. Aucune envie. Le dessein de Dieu pour le croyant est que ce dernier compte sur le Saint-Esprit pour animer ses actes. Et l'Esprit ne peut pas te pousser à pécher. Ce n'est pas possible, c'est un Esprit Saint. Il te conduit plutôt à vivre loin du péché. Le chrétien n'a plus besoin de règles, il goûte la vraie liberté. Il a reçu un esprit de sagesse et de révélation dans toute sa connaissance. Celui qui connaît Dieu et qui a compris l'infinie richesse de sa grâce envers ceux d'entre nous qui croyons, bien aimé, celui-là seul peut réellement jouir de la vie, car celle-ci est placée sous le régime de la grâce. Le principe directeur de l'appel de Christ, qui nous a tous appelés à sa suite, c'est que dès que nous aurons entendu, en tout cas décidé d'entendre et d'appliquer, nous aurons absolument tout ce qu'il faut pour grandir dans la ressemblance de Christ et mener à bien la mission qu'il nous a confiée. Car Dieu nous sauve, et bien pour une mission. Que Dieu nous bénisse et bénisse sa parole. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ce salut complet que tu nous as donné en tant que Fils Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous amène à réaliser pleinement notre héritage, afin que nous puissions en jouir aussi pleinement ici-bas, dans ce monde. Parce que le salut que tu nous as accordé commence ici et se poursuivra dans l'éternité. Que nous ne puissions pas passer à côté de ce qui nous revient de droit selon tes promesses. Merci Seigneur pour ta parole, qu'elle produise du fruit dans nos vies, qu'elle nous aide à ressembler davantage au Christ, afin de le manifester dans un monde rempli de corruption. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.